Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler immobilier et plutôt mobilier avec Johan. Johan, en fait, j'ai enregistré l'épisode il y a quelques temps avec lui et il s'avère que ça rentrait pas. Je savais pas quand le diffuser dans ma programmation de podcast. J'ai déjà des podcasts qui sont prévus pour le futur. Dans le passé, ben voilà, j'essayais un peu de. J'avais une idée en tête de programmation et j'avais pas réussi à le caler. Là, ça va bientôt être la rentrée. C'est le moment de s'occuper des meubles, en tout cas. Et aussi, ben moi j'ai un appartement là que je vais louer à des étudiants, j'ai eu plus de 100 messages. Donc voilà, c'est le moment déjà de s'occuper. Si vous avez des enfants, peut-être d'acheter les meubles. Si vous avez du meublé, c'est le moment ou jamais de si vous venez d'acheter un appartement, de le meubler. Donc voilà, je trouvais que c'était le bon moment. Le week-end du 15 août, normalement les épisodes sortent le mercredi, mais là il n'y a pas de règle. Je vais pas faire d'intro, de remerciements, etc. Ce sera pour le prochain épisode. Je pense que j'ai assez parlé tout seul dans l'épisode sur mon défi perte de poids. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. On va voir avec Johan son parcours. Il a été agent immobilier. On va parler un peu de ce métier qui est décrit. Et puis ensuite, on va voir leur activité, ce qu'ils proposent. Donc en fait, c'est de vous fournir des meubles, une solution clé en main pour vos meubles. Voilà. On s'attarde pas plus là-dessus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Johan qui est fondateur, cofondateur de Mobimo. Salut Johan, comment ça va?
Salut, salut, ça va très bien et toi?
Après de nombreuses péripéties de micro et d'enregistrement, bon, ça nous arrive souvent. Je sais
On y
pas, là c'était
arrive.
mon bac, là c'était ma faute. Hein. Je sais pas pourquoi, mais c'était ma faute. Donc voilà, bah, sois le bienvenu. Yon, j'aime bien pour vu que je m'appelle Bye Bye Patron, j'aime bien que les invités racontent peut-être un premier job un peu insolite ou cocasse. Je sais pas si tu as fait des jobs d'été un peu voilà qui étaient peut-être pas complètement en relation avec tes compétences et tes inspirations futures. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager un de ces métiers ou stages que tu as pu faire et qui t'a dit bah je vais peut-être pas faire ça toute ma vie.
Bah écoute, de toute façon, je crois qu'on est tous passés par là à un moment. Des jobs étudiants, j'en ai fait pas mal, c'est cool. J'ai commencé par la restauration. J'ai fait tout ce qui était possible, je crois, en restauration. J'ai fait la plonge, la cuisine, la salle. Bon, voilà, j'ai fait à peu près tout ce qui était possible et je sais que je remettrai pas un pied dans un restaurant.
C'est quoi le
En tout cas,
pire
pas pour y bosser.
des trois, c'est quoi le pire?
La plonge, en vrai.
Ouais.
Ouais, tu reviens pas, il n'y a pas un soir où tu reviens pas sans coupure, sans brûlure,
Ah,
parce que sortir toutes les assiettes brûlantes du lave-vaisselle, mais tu es obligé de
ah
le faire parce que sinon t'as rien, t'as rien pour les clients. Ouais, ça c'était très très chiant. J'ai bossé chez Haribo, ça c'était cool par contre.
ah ouais, les bonbons.
Ouais, j'ai bossé au musée Haribo. Figure-toi que c'était un rêve de gosse de bosser chez Haribo.
OK.
Bon, au final, le rêve, il a un peu été démonté, mais c'était une bonne expérience quand même.
Ouais, et
Bonne
tu faisais quoi
expérience quand
là-bas?
même. Je bossais au musée. En fait, je viens d'un village qui est à côté de Nîmes, qui est à côté de Uzès, où il y a l'usine Haribo, et il y a un musée à côté de l'usine. Donc, j'ai
D'accord.
bossé à l'accueil du musée.
OK,
Voilà.
cool.
Voilà. Mais non, non, franchement, bonne expérience quand même.
Ouais. Ah, je savais pas qu'ils avaient un musée. C'est allemand, je
Ouais.
suppose, non? À la
C'est
base.
ça, ouais, c'est
Ouais.
allemand de base.
Mais je sais pas qu'ils avaient un musée en France. Ben voilà, on
Eh ben
apprend tous les
écoute,
jours.
exactement.
Et du coup, tu peux nous raconter ce que tu fais aujourd'hui chez Mobimo, pourquoi tu es là, et puis après, on reviendra sur ton parcours un peu plus en détail.
Ouais. Alors bah écoute, Mobimo, ça a commencé de manière assez naturelle, j'ai envie de dire. Moi, j'ai un parcours qui est très centré autour de l'immobilier. J'ai fait un BTS dans les professions immobilières. Ensuite, j'ai fait des formations en investissement et fiscalité immobilière. Je me suis rendu compte que ça me plaisait bien, surtout que à ce moment-là, j'étais en activité d'agent commercial en immobilier. Je me rendais compte que c'était pas forcément fait pour moi et voilà, je cherchais à me projeter ailleurs. Donc, l'investissement immobilier, finalement, ça a été la voie royale, on va dire, par rapport à mon profil. Parce que je me projetais très, très bien, par contre, avec l'accompagnement d'investisseurs et ce côté fiscalité qui oblige à faire marcher son cerveau, on va dire, sur certains aspects qui sont assez complexes, mine de rien. Donc, pendant ces formations, je me suis rendu compte à quel point c'était pertinent de louer en meublé, dans la plupart des cas. Et donc voilà, c'est là où l'étude de marché a commencé, à savoir si le service existait déjà, parce que l'idée, c'était du coup, vous l'aurez compris, de proposer des meubles clés en main pour l'investisseur immobilier qui peut pas forcément gérer cette partie. Donc on a commencé l'étude de marché, on a regardé s'il y avait une pertinence à proposer ce service, tout simplement. Et de fil en aiguille, on a commencé à proposer le service, à faire quelques chantiers. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Ok. Et donc aujourd'hui, vous proposez donc c'est des packs de meubles avec le montage pour les
Exactement.
investisseurs qui veulent faire de l'investissement meublé.
C'est ça. En fait, on va partir d'un cahier des charges que le client va nous donner de manière très simple, hein, c'est un entretien téléphonique, il va nous expliquer un petit peu son projet. Et on va lui proposer un pack sur mesure avec les meubles, électroménager, décoration. Et on va l'adapter en fonction de l'exploitation du bien. La location étudiante, location saisonnière, location à l'année, en fonction des villes aussi. Donc, tous ces facteurs vont nous permettre de faire des packs qui soient vraiment adaptés aux besoins du client, quoi.
Ah bah cool. Je veux juste rapidement qu'on revienne sur ton métier d'agent immo parce que c'est
Ouais.
vrai qu'il a mauvaise presse, surtout quand on est investisseur. Alors après, ce que je veux bien comprendre aussi, c'est que moi je le dis souvent, même à mes j'ai des on a des membres qu'on aide à investir. Souvent, les meilleurs investissements, c'est à peu près les appartements les moins chers. Et les appartements les moins chers, bah ils sont peut-être pas vendus par les meilleurs agents immo. C'est sûr que celui qui vend la maison avec piscine à 1 million d'euros, eh ben peut-être que il est arrivé là soit parce qu'il a un bon réseau ou il a peut-être plus de bouteilles et les petits jeunes on les met sur les apparts à moins de 100 000 euros. Mais selon toi, c'est d'où vient cette mauvaise presse des agents immo? T'as l'impression qu'il y en a trop ou c'est le problème de la création de valeur, elle se fait pas au bon endroit?
Ouais. C'est une question très longue à répondre, je pense.
On va pas faire tout le
Très,
podcast
très
avec ça,
large,
j'espère.
mais c'est une réponse personnelle aussi. Je pense que c'est un métier qui est très facilement accessible, sans formation, malheureusement. La formation est pourtant indispensable parce que on accompagne des clients sur des projets de vie qui sont très importants. Donc, un défaut de conseil peut littéralement ruiner des années de vie, parce que ça peut être des histoires de vie cachées parfois ou voire pire. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que le métier est trop facilement accessible et que on se retrouve avec des casseroles, on va dire, qui donnent mauvaise presse à la profession. C'est dommage.
Ah, parce que si c'était moins accessible, il y aurait moins d'agents, donc vous passeriez moins de temps à sourcer des biens, parce qu'en fait, les gens, il y a
C'est
bien des gens
ça.
qui... Et donc,
C'est
il y
ça.
aurait plus de... Alors, soit les prix baisseraient, parce qu'en fait, ça t'aurait pris moins de temps,
Et
ou soit tu
ouais.
pourrais passer plus de temps
C'est ça.
à vendre les biens, les mettre en valeur. C'est clair que moi, je vois des... Parfois, j'en partage en story, je vois des... Alors après, c'est pas aux agents de le faire, mais tu as des photos avec de la vaisselle crade, des lits pas faits et tout. Tu te dis, ouais...
Ah, mais c'est
Franchement,
n'importe quoi.
tu prends 10 000 balles là-dessus et le lit il est pas
Ouais.
fait.
C'est
Mais,
ça, c'est
et du
ça.
coup, il y a une question à laquelle j'ai peut-être plein de gens ont la réponse. Mais donc, toi, tu as fait un BTS profession immobilière
C'est ça.
et ça apporte quoi par rapport à quelqu'un qui l'a pas fait? C'est que tu peux avoir la carte à terme, c'est ça?
Ouais, exactement. À la fin de cette formation, tu peux avoir soit la carte T, soit la carte G. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Donc T pour transaction, G pour gestion. Donc ça, et pendant la formation, en fait, tu apprends tous les. Donc ça reste généraliste. Donc tu vas pas être un spécialiste sur une profession immobilière. Donc c'est pour ça qu'après on continue sur une licence ou un master pour ceux qui veulent se spécialiser. Mais tu vas apprendre toutes tes professions. Donc ça va être la gestion locative, la transaction, la location, les activités de promotion immobilière, d'immobilier commercial. Donc ça va être très très large. Ça va même aller jusqu'à des notions de comptabilité. Comptabilité, gestion, gestion d'entreprise. Bon, dans une certaine mesure, hein, ça restait très superficiel. Mais l'objectif, c'était de pouvoir communiquer en fait avec tous les intervenants des professions immobilières.
Ok. Et
Voilà.
avec ça, toi, tu peux avoir donc une carte et après, tu peux embaucher des gens qui, eux, ont pas ce diplôme. C'est ça.
Exactement.
Ouais.
C'est ça. Ça
Ok.
permet entre autres d'ouvrir une agence immobilière et pouvoir faire des ventes ou
Ouais.
pouvoir avoir un portefeuille de gestion locative.
Ok. Est-ce qu'il y a une partie sur les travaux ou enfin quoi regarder dans un bien, voir, tu vois,
Ouais.
chiffres. Il y a une partie là-dessus dans la formation ou pas?
Malheureusement, non. Il y a une
Ok.
partie investissement locatif, pareil, très superficielle. Dans cette partie, après, j'avoue que c'est des souvenirs. Hein. Là, tu fais
Ah,
travailler ma mémoire.
bah écoute, ça
Hein.
fait du bien
Mais
parfois.
de mémoire, il y a une petite partie effectivement sur les travaux. Je revois des photos avec les mérules, avec les taches de moisissure et avec les traces d'humidité. Je revois très bien ça, mais encore une fois,
Après, c'est à des sujets qui
c'est...
sont larges et c'est pas en 2 ans et surtout,
Non, non, non.
voilà, t'as 18 ans ou 20 ans,
C'est
t'as pas,
ça.
tu, faut aussi
Non.
se rappeler, voilà, si je vous demande qu'est-ce que vous avez appris en première et en terminale, la plupart des gens, ils
Ouais.
s'en souviennent plus, donc,
C'est ça.
ok.
C'est ça.
Mais je
Non,
pense
non,
que
mais
c'est bien de
voilà.
savoir, tu vois, quand t'es investisseur, à quoi l'agent il a été formé ou non.
Bien
Là, tu me
sûr.
dis que, voilà, les travaux, c'est pas trop son domaine. Bah oui, en fait, on peut pas être
Non, t'es
spécialisé
pas
non
formé à
plus.
ça. Ouais, t'es pas formé. Même un agent MO qui est formé, ce qui n'est pas la majorité, n'est pas formé à ça. Il est formé à faire un diagnostic général de l'état d'un bien. Mais après, c'est pour ça qu'on a des diagnostiqueurs, qu'on a des experts en bâtiment et il faut savoir s'en entourer, quoi.
Ok, super. Donc, agent commerce, tu as fait ça, agent commercial. Et après, donc, tu as décidé de lancer Mobimo.
Exactement, ouais.
Du coup, l'équipe, elle ressemble à quoi aujourd'hui?
Eh ben, écoute, aujourd'hui, on est trois. Donc, Benjamin qui est en région parisienne, qui s'occupe de toute la partie B2C. Donc, pour ceux qui ont du mal avec le terme, c'est la personne qui va être en relation avec le client final. On a Quentin qui est dans la région Clermont-Ferrand, qui va s'occuper de toute la partie logistique. Donc, c'est lui qui va faire le sourcing de fournisseurs, qui va s'occuper de constituer les packs en collaboration avec un architecte d'intérieur. Donc, c'est lui qui va s'occuper d'avoir des packs qui soient complètement optimisés pour l'investisseur immobilier. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et moi, je m'occupe de toute la partie B2B, en fait. Donc, je vais traiter uniquement avec les professionnels de l'immobilier. Donc, ça peut être des conciergeries, des conseillers en gestion de patrimoine, agences immobilières, maîtres d'œuvre. Donc, c'est très, très large. Et je travaille avec eux pour constituer un réseau d'apport d'affaires. Donc, c'est eux qui vont nous apporter des clients par un biais différent que Benjamin qui va aller chercher directement. Voilà.
Ok. Et donc toi, t'es, bah, je pense à, enfin, par exemple, un agent immo, il vend un T1, il dit voilà, si vous voulez le louer en meublé, je connais une société qui vous apporte les
C'est
meubles,
ça.
qui et puis vous lui
C'est ça.
rétrocédez une partie
Exactement.
de votre commission. Ok.
Du montant de livres.
Et pareil pour les, ben, pour les promoteurs, je suppose. Et t'as quoi d'autre comme professionnel, tu m'as
On
dit?
a conseiller en gestion de
Ah oui, et
patrimoine.
concierge aussi. Ouais.
C'est ça. Les
Ok.
conciergeries également. Ouais. Non,
Ok.
j'avais dit conseiller en gestion de patrimoine, si tu
Oh,
veux. Ouais,
ouais.
c'est ça.
Ok.
Hein?
Ok.
Ouais, voilà. Donc, toutes les activités d'immobilier au
Ouais.
final.
Non, mais c'est intéressant. C'est une, tu vois, ça, quand on le dit, ça semble logique. Mais si j'avais lancé l'activité, je sais pas si j'aurais pensé tout de suite, tu vois, les.
C'est une réflexion, mine de rien. La réflexion, en fait, elle a été la suivante, c'est à quel professionnel de l'immobilier l'ameublement peut être utile. Autrement dit, les professionnels d'immobilier vont pouvoir conseiller de passer en meublé à leurs clients, mais qui sont ces professionnels de l'immobilier? Il y en a pour qui ce sera pas forcément pertinent. Tu vois, typiquement, les promoteurs, bien souvent, ils vont essayer de pousser du Pinel. Et le Pinel, on peut pas meubler.
Ouais, il y a pas besoin
Donc,
de
on va peut-être pouvoir toucher des promoteurs dans une certaine mesure, mais ça va être minime et peut-être un peu moins pertinent.
Ok.
Voilà.
Ouais, je vois l'idée. Super. Et ton associé à Paris, lui, comment il démarche les clients?
Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu plus complet que ça même. Il organise des événements. Souvent, si tu veux, on est pas mal intégré à des groupes d'investisseurs immobiliers. Donc, il organise des événements ou participe à des événements simplement avec des professionnels de l'immobilier. Mais du coup, là, les professionnels d'immobilier, il va traiter avec eux directement, pas forcément dans le but de construire une relation B2B, mais dans le but d'avoir une relation plutôt B2C.
Ok.
Et voilà, il va communiquer sur des plateformes, des groupes Facebook, sur plein de supports, en fait, qui vont permettre de toucher directement les clients finaux.
Ok, super intéressant. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est peut-être pas le cas de tous les auditeurs du podcast, mais Moi, j'ai monté trop de meubles dans ma vie. J'ai des appartements meublés. Je m'en souviens, j'avais acheté un appart en juillet. J'ai dû monter les meubles à 23 heures tellement il faisait chaud. Je dégoulinais du nez comme ça. Et puis, il y avait même une voisine, elle était avec moi dans l'ascenseur. Elle disait, ah, vous montez des meubles à 23 heures, ça ne va pas la tête et tout. Mais il faisait tellement chaud. Et c'est vrai que récemment, on m'a pas vraiment demandé d'aider à monter des meubles, mais voilà, pour une amie que je devais, je devais l'aider à déménager. Et moi, je lui ai dit, mais moi, dans ma vie, j'ai déjà monté trop de meubles. Alors, bon, si vraiment, vraiment, tu as besoin, mais pour moi, ce ne sera pas du tout un divertissement. Tu en as pour qui c'est marrant, tu vois. Tu as ta visseuse. Mais moi, voilà, j'ai fait trop d'appart en meublé. C'est bon. Et d'ailleurs, on est. On va sûrement passer des apparts qu'on avait en nu en meublé. Peut-être qu'on fera appel à vous d'ailleurs. Ça dépend un peu des meubles qu'on a.
Avec plaisir.
Mais
avec
en tout cas.
Plaisir. Il faut faire un devis dans tous les cas. C'est gratuit.
Voilà.
Écoute, hein.
Et en plus, grâce au podcast, j'ai moins 75%. Donc, c'est génial. C'est génial.
Attention avec ça.
Avec le code promo, bye bye. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment, quand tu commences à avoir beaucoup de biens meublés, c'est vraiment une solution. Tu vois, t'as la, alors, en fait, c'est à la fois un truc bien et pas bien. Ça dépend des gens. Moi, vu que j'ai beaucoup de revenus étrangers, je vais sûrement passer à l'MP là cette année, je pense. Et parce qu'en plus, j'ai arbitré des biens et tout. Et c'est vrai qu'une fois que tu vas avoir dépassé le stade de LMP, bah, tu peux recharger la mule. T'en as, il s'était arrêté à 23 000 euros. Parce que moi, mes revenus étrangers, du coup, ils ne comptent pas. Enfin, si j'ai bien compris, si pour les étrangers, c'est toujours un peu en discussion, mais en gros, visiblement, les revenus étrangers ne comptent pas. D'accord. Et donc tu as les 23 000 euros et dès que tu es au-dessus,
tu passes à LMP.
Et
après, c'est le boulevard après pour.
Voilà, au final, c'est parce que tu as beaucoup de gens qui sont restreints à cause de ça, tu vois, soit
exactement.
Des 50% de leurs revenus, soit des 20. Ce qu'on rappelle, en fait, très longtemps, il y avait trois conditions pour être LMNP, dont l'inscription au registre du commerce et des sociétés, qui a sauté. Donc avant, c'était un choix et maintenant, c'est plus un choix. Et donc, les deux conditions qui restent, c'est 23 000 euros ou 50% de vos revenus. Et moi, je pensais que j'étais tranquille parce que, voilà, Dieu soit loué, je gagne plus que 23 000 euros par an. Mais après, on m'a dit, en fait, les revenus étrangers, ils comptent pas. Bon, écoute. OK. Donc, pour les étrangers, en gros, il n'y a plus que les 23 000 euros. Cool. Et c'est vrai que, du coup, tu vas pas monter. Enfin, ça prend vite, surtout si tu investis loin de chez toi. En fait, c'est quoi votre client type? Parce que moi, c'est vrai que j'investis, du coup, loin de chez moi. Donc, en général, j'ai déjà fait des. Pour te dire, une fois, j'ai signé un vendredi, je suis allé chez Ikea, j'ai rempli deux caddies, j'étais tout seul, j'avais la voiture de ma mère, parce que j'étais venu en train, je ne sais plus. Et d'un coup, ça ne rentre pas. Je me rends compte que ça ne rentre pas.
Le classique.
Et il est 20h ou 21h, le Ikea, il est en plus près d'une cité et tout. Et j'ai fait quoi? J'ai appelé un taxi. Et j'ai dit, j'ai besoin d'un taxi avec un grand coffre. Donc, j'ai rempli le taxi. J'ai dit au taxi, vous me suivez. Après, le gars, il m'a aidé à décharger et tout. Sympa, je lui ai laissé un pourboire. Et donc, j'ai appelé un taxi pour pas qu'il m'emmène. C'était la première fois de ma vie. On voit bien les galères.
Tu as suivi ta voiture de ta mère?
Moi je l'ai blindé ma voiture. Enfin, la voiture de ma mère, j'ai roulé avec. Et puis, lui, il m'a suivi. À 20h en mois de novembre, il pleuvait et tout, ça caillait. Donc voilà. Donc c'est ça les joies du meublé.
C'est ça, exactement. Ouais. Là, c'est la bricole. Pour la petite anecdote, notre premier chantier là, avec Mobimo, c'était un 31 décembre. 31 décembre, on arrive, l'appartement pas du tout prêt, encore en travaux. On a dû tout installer dans une seule pièce. Il y avait trois apparts. Hein. Trois appartements meublés, on a dû tout installer, les meubles de trois appartements dans une pièce. Il n'y avait pas de chauffage. Donc, 31 décembre, autant dire que sans chauffage, c'est compliqué. À monter les meubles jusqu'à 5h du mat. Au final, Ikea qui fait des couilles dans la commande, les dimensions sont pas bonnes. On doit retourner à Ikea le lendemain. Donc,
le 1er janvier, quoi. Donc, c'est fermé.
Exactement. 1er janvier, autant te dire qu'il faut attendre le 2.
Ouais.
Donc horrible. Donc des anecdotes comme ça. Bon après.
Ah, je pense que vous, en plus, vous l'avez à une autre échelle, quoi. C'est sûr que moi.
Carrément. En plus, t'as l'impression de te dire que c'est pour un client, donc il faut pas faire de merde.
Ouais.
Mais d'un autre côté, bon. Mais non, mais c'est bien. Après, on en rigole. Mais
ouais, et puis après, au bout d'un moment, tu as le coup de main. Parce que là, pour
c'est
l'instant,
ça.
vous déléguez parfois et vous montez aussi des meubles. Voilà, vous êtes en
C'est
début
ça, c'est
d'activité.
ça. Bon, autant que possible, on essaie d'aller sur place quand même, au moins un de nous trois pour superviser le chantier, s'assurer que ça se passe bien et que, bah, que ça corresponde à ce qu'on veut, quoi. Parce qu'on est un peu un peu tatillon sur les chantiers. Donc à chaque fois, on est au moins un de nous trois sur place et selon la taille du chantier, nous deux ou nous trois, ça dépend. Et puis voilà quoi. Donc on continue de monter des meubles autant que possible.
Ok. Ok, super. Et j'avais une question, c'était par rapport à donc vos biens, vous les sourcez dans plusieurs chez plusieurs fournisseurs. Tu as
Ouais.
dit que tu as une personne qui était spécialisée dans la logistique. Comment ça se passe? Lui, il fait comment il gère? Il se fait tout livrer à un endroit et après vous renvoyez. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que
Ouais,
ça
je
vient de
vois,
cinq
bien sûr.
magasins? Et
Hein.
après, vous renvoyez en une fois, ou vous envoyez tout sur le chantier au
Eh ben,
compte-goutte?
ça dépend des chantiers. Sur les petits chantiers, systématiquement, on va chez nos fournisseurs, on amène sur place, on monte et puis basta. Sur les gros chantiers, pour donner une fourchette, après, ça dépend, parce que tu vois, typiquement, entre un appartement qui sera loué à un étudiant ou un appartement qui sera loué à Airbnb, ça va du simple au double niveau
Ouais,
quantité de meubles, quoi,
ah
quasiment.
ouais, bah facilement,
Donc,
facilement.
allez, on va dire que à partir d'un trois pièces, quoi, la question se pose, à savoir si on commande pas tout dans un espace de stockage qu'on va louer pour après gagner du temps sur place et pouvoir optimiser la logistique. Donc après, ça, c'est Quentin, du coup, qui fait le calcul, à savoir ce qui est le plus intéressant, parce que le but, c'est de répercuter le moins possible sur le devis, quoi, parce que tout ça chiffre, la
Forcément.
location d'entrepôt, du camion, tout ça, le temps que tu vas garder le camion. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte au niveau de la logistique. Et c'est pour ça que Quentin est là, parce que moi,
Ah, mais
j'avoue, c'est pas
ça peut vite
forcément ma
être un
tasse de thé.
casse-tête, ouais.
Ouais. Non, il faut aimer ça. Il faut vraiment aimer ça. Donc, ouais, voilà, ça dépend des
Ok.
chantiers. Pour les
Ok.
petits, on va chercher. Pour les gros, on a un espace de stockage qui centralise.
Ok. Intéressant. Quels sont les budgets du coup pour un. Bah, on va dire, vous faites quoi? Vous faites de la coloc aussi, je suppose.
Ouais, on fait
Ouais.
tout. On fait tout.
Du coup, pour un, je sais pas, un T1, on va
Ouais.
dire.
Bah, écoute, on a deux offres, même trois, on va dire. On a le pack standard qui démarre à partir de 3 000 euros, livraison, montage inclus. Donc là-dedans, tu vas avoir l'ensemble du mobilier. Bon, je vais pas te faire la liste, hein.
Non, bah.
Mais
Parce
donc
qu'il
on
y
a
a un
l'ensemble du
décret, voilà, pour ceux
mobilier.
qui savent pas, il y a un décret
C'est
en tout
ça,
cas. Et
exactement.
le décret, souvent, par exemple, il n'a pas le canapé, si je me trompe pas. Mais bon, t'es quand même, quand
Oui.
les appartements ils grandissent, tu vas pas ne pas mettre de canapé parce que le décret il le demande pas. Donc je
Ouais,
pense
c'est
que.
ça. En fait, c'est ça. On se base sur le décret, bah, du coup, de la loi Allure qui dresse la liste des meubles. Mais voilà, comme tu dis, la liste, elle est quand même légère. Donc, on le complète. Même sur le pack de base, on met quand même plus d'éléments que sur le décret. Après, libre au client de retirer des éléments s'il veut les retirer après coup. On bloque pas. C'est pas parce que c'est des packs qui sont pas modifiables. Mais notre pack de base est quand même plus complet que le décret. Et on propose quand même une base d'électroménager qui est indiquée dessus et un petit peu de décoration. Donc ça reste dans le pack de base, ça reste très succinct. C'est pour ça qu'on propose une option au niveau de la décoration. Donc sur le pack de base, électroménager, meubles et un peu de décoration, on a 3 000 euros pour un studio. Livraison, montage inclus. En standard. Donc le standard, si tu veux, ça va être plutôt destiné aux petites villes, location étudiante, voilà. Et après, on va avoir un pack confort à partir de 4 000 euros qui sera plutôt destiné aux plus grandes villes ou alors à des exploitations en location à l'année. Quelqu'un qui va
À courte
sélectionner
durée
peut-être
plutôt, non?
location à l'année ou courte durée.
OK.
Les deux peuvent faire l'affaire. Et après, pour la courte durée, justement, on peut faire soit un pack confort, soit si le client a des besoins particuliers. Tu vois, typiquement, on a une cliente qui nous a demandé un pack jungle pour un de ses appartements Airbnb. Là, c'est un pack personnalisé parce que c'est des éléments qu'on n'a pas du tout en référence. Donc, ça va nous obliger en interne à faire appel à un décorateur d'intérieur, à faire un nouveau sourcing de meubles pour aller chercher des fournisseurs, pour aller
Ouais,
chercher des meubles
forcément.
qui vont répondre au style. Et là, c'est une demande vraiment particulière et on fait appel au pack personnalisé. Voilà. Donc, on a ces trois packs, standard, confort, personnalisé, qui constituent notre offre. Après, là, on est en train d'essayer. Là, ça fait quelques jours qu'on a lancé un pack. On l'a appelé le Starter Pack pour les étudiants. Donc, l'idée, c'est de permettre aux étudiants, avant la rentrée, de meubler leur appartement.
Pour les étudiants locataires, en fait, du coup.
C'est ça. Bah, en fait, on sait la galère que c'est de trouver un appartement meublé avant la rentrée, surtout quand on vient de campagne et qu'on va faire des études en ville. Les parents, ils n'ont pas forcément la motivation ou la capacité de meubler les appartements des enfants. Donc, on propose un starter pack à partir de 2500 euros, donc avec un peu moins d'éléments que le pack standard. Le but, c'est vraiment de permettre aux locataires d'être meublés sans rien gérer. Et il peut même proposer au propriétaire de participer, puisque le propriétaire, du coup, peut louer un meublé et bénéficier des avantages du meublé. Donc, il paye moins d'impôts, il peut louer un peu plus cher. Donc, il y a des avantages qui sont quand même assez importants pour le propriétaire, qui peuvent l'inciter à participer, ou en tout cas, une partie, au financement des meubles.
Donc, là, c'est pas dur. Voilà,
donc, on propose ça là, jusqu'à début septembre en test pour voir le retour client qu'on peut avoir. Mais ça me semble être une proposition pertinente, donc ça en cours.
Ok, ouais, bah cool. Et c'est vrai que tu vois, bah moi j'étais étudiant, ça date, hein, maintenant j'ai eu mon bac en 2005, je crois. Et nous, à l'époque, on louait des apparts, tu vois, par exemple, il n'y avait pas de cuisine. C'était un truc super courant. Enfin, il n'y avait pas de gazinière, il n'y avait pas de... T'avais un évier, mais c'était... Tout le monde avait les mêmes plaques de merde, des trucs électriques à 40 balles que tu peux sur un meuble Ikea c'est que tu avais acheté. Et en fait, moi, j'ai acheté un appartement récemment où il n'y avait pas de, il y avait pas de cuisine. Et en fait, bah, forcément, quand tu es investisseur, chaque jour, ça te coûte. Tu vois. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de le louer comme ça le lendemain. Et même enfin, je voyais que le monde, il avait complètement changé, quoi. Tout le monde me disait, mais il n'y a pas, et pareil, les frigos et tout, on les achetait sur le bon coin, les gazinières, on les achetait sur le bon coin. Et le monde, alors à l'époque, je pense que je sais pas s'il existait déjà le régime, enfin, il était déjà avantageux, peut-être moins connu et tout. Bon, en tout cas, tout le monde faisait ça. Tout le monde avait la gazinière avec la bouteille de gaz là en cube.
C'est ça. Récupéré à 40 euros sur le bon coin.
Ouais, voilà. Et ouais, c'était exactement ça. Et maintenant, je vois que le monde, il a vraiment changé et que même les étudiants dans les petites villes et tout. Eh ben, il leur faut, ça va plus.
Donc, il faut un standard.
Ouais, il faut un standard
à respecter maintenant. Ah. Ouais, mais exactement.
Et je pense que c'est pareil pour les studios. Moi, j'ai un studio qui est petit, de 17 mètres carrés, et je me fais un peu du souci sur, tu vois, les gens, ils veulent aussi de plus en plus grand. Nous, t'avais des gosses, ils habitaient dans 9 mètres carrés, c'était pas tous, mais tu vois, les plus. Alors que maintenant, moi, j'ai un T3, j'ai des étudiants qui viennent parfois hein, pour le louer, quoi. Donc, ouais, ça a changé. C'est comme ça. Faut s'adapter.
D'où le développement des colocs et de ce type de location, quoi, qui devient ultra pertinent, quoi. Donc, ça permet de correspondre aux locataires qui veulent de la surface, aux propriétaires qui veulent de la renta.
Ouais.
Okay. Ça s'améliore pas mal.
Ah, bah, c'est comme ça, le monde, il a changé. Faut s'adapter.
Bien sûr.
C'est ça. Et bah cool. Et selon toi, qu'est-ce qui va faire que votre business il va fonctionner ou pas? Donc en fait, on n'en a pas parlé. Tu as commencé il y a 2 ans.
C'est ça.
Et il y a eu une petite pause.
Ouais, exactement.
Donc pourquoi il y a eu la pause?
Je développe la petite pause, c'est ça.
Ouais, bah, tu peux nous raconter rapidement. Après, tu fais les éléments que tu veux.
Ouais, bien sûr. Non, en fait, j'ai lancé le projet avec un premier associé il y a un peu plus de 2 ans, du coup. Et voilà, donc on n'avait pas forcément les mêmes objectifs au niveau professionnel, en fait, d'une manière générale. Et donc on a décidé d'arrêter le projet. Donc dans un premier temps, moi je voulais continuer, mais pour
tout
être
seul.
Honnête, c'est ça, pour être honnête, voilà, j'avais comment dire, je savais que j'avais pas les compétences nécessaires pour continuer le projet tout seul. Et même partager une aventure, c'est bien quand on en a plusieurs. Ça perd de son intérêt, sinon. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un en logistique. Et c'était un peu la condition pour lancer le projet. Donc, de là, j'en parle avec un collègue avec qui j'avais travaillé en région parisienne, avec qui on avait déjà projeté de lancer un projet ensemble il était un peu câblé pour ça aussi. Donc, je lui en parle et il se trouve qu'il connaissait quelqu'un de très, très compétent en logistique avec l'expérience et avec cet esprit entrepreneurial aussi. Donc, ça a matché et on a relancé le projet, quoi, on va dire. Ça faisait combien de temps après, du coup? Un peu plus d'un an après. Là, ça fait
Donc,
maintenant 6 mois à peu près. Donc, c'était un peu plus d'un an après cette pause. Donc voilà, écoute, hein. Et pendant
il a
cette
été chaud
pause,
tout de suite. Vous l'avez payé ou vous lui avez juste donné des parts?
Là,
Le
pour le moment,
logisticien.
là, que départ.
Que départ, voilà.
Que départ.
Ça
Que
vaudra de
départ,
l'argent. Ça vaudra de l'argent un
mais
jour.
c'est ça, c'est de l'investissement sur du long terme.
Ok. Et c'est son métier à plein temps ou il a un autre métier?
C'est ça, en fait, à chacun de nous trois, c'est notre métier à plein temps.
Ouais.
On est vraiment à
Ok.
100% dans Mobimo et là, d'ailleurs, on devrait recruter d'ici la fin de l'année pour développer un peu la partie commerciale, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, on va pas se cacher.
Ah,
Donc,
parce que vos fournisseurs, ils peuvent vous fournir des meubles de façon illimitée, quasiment, quoi. C'est
oui,
des clients qu'il faut
c'est
trouver.
ça, et c'est vrai que pour que Quentin, du coup, qu'un logistique soit débordé, il en faut. Il a une capacité de travail qui est assez impressionnante. Et en plus de ça, il lui faut vraiment un afflux de clients très important pour être dépassé et avoir besoin d'être épaulé par quelqu'un. Donc, cette partie,
C'est pas le goulot d'étranglement, quoi.
non, non, non. Et après, bah, il y a toute la partie, voilà, qui est commune, on va dire, à toute entreprise avec, hein, tout ce qui est gestion, comptabilité. Hein.
Bien
Mais
sûr.
ça, quelque part, c'est le classique et on arrive à très bien le gérer. On est bien entouré
Ok.
aussi, donc ça va. Donc, ça
Ok.
fait très bien comme ça.
Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire donc pour toi? Bon, on a un peu parlé, peut-être que le business il va fonctionner ou non.
Oui, c'est vrai. Ouais. Eh ben, écoute, c'est simple. J'ai l'impression, c'est même pas qu'une impression, mais on en parlait tout à l'heure un petit peu. On est dans une société où tout évolue, où le clé en main devient banal. Ça devient naturel. Si on n'a pas son Uber Eats à la porte au bout de 20 minutes, c'est pas normal. Alors que, bon, c'est un luxe quand même, on l'oublie. Et on a ce côté, donc du
Ouais,
clé
vous
en
êtes
main
sur la
qui se
bonne
développe,
tendance par rapport à ça, c'est vrai.
c'est pas. Et d'un autre côté, on a cet investissement immobilier qui devient de plus en plus compliqué, avec des prix qui atteignent des niveaux qui sont incroyables. Des banques qui prêtent, pardon, de plus en plus difficilement, et donc des investisseurs qui vont avoir besoin d'être encore plus malins dans leur optimisation pour trouver leur rentabilité. Donc, le passage en meublé est un des leviers quand même qui est assez pertinent au niveau de l'investissement locatif. Donc, petit à petit, notre rôle, ça va être d'avoir cette pédagogie auprès des investisseurs immobiliers pour qu'ils se rendent compte de la pertinence de passer en meublé. Donc, on a ce côté-là au niveau fiscal. On a un autre volet avec le développement du Airbnb. Pour parler un petit peu des éléments clés en main. Donc là, le Airbnb, on est en plein dedans. Le Airbnb qui continue de se développer. Tout ce qui est courte durée. Moi, j'habite dans une région qui est très touristique. Donc, la location courte durée, c'est juste énorme. Autour de Nîmes et du bassin méditerranéen, c'est juste énorme. Et pas que pour le bord de mer. On a les Pyrénées, on a les Alpes qui sont pas très loin, les Cévennes du côté du nord de Nîmes. Donc, énormément de locations courte durée qui se développent. Donc, on a un marché qui est assez impressionnant. Donc, rien que pour ça, il n'y a aucune raison que ce marché
Faut
ne
juste
se
vous faire
développe
connaître,
pas.
quoi. C'est ça un peu le.
Exactement. Il faut juste se faire connaître. C'est un
Et
marché
grâce au
qui est.
podcast, ce sera chose faite maintenant, tu vois.
Mais bien sûr, exactement. C'est un
Hein?
marché. C'est un peu la difficulté de ce marché, c'est que il est en création. Donc, il y a quelques acteurs sur le marché, mais pas beaucoup et pas de référence pour le moment. Donc, l'objectif, c'est qu'avec tous les acteurs du marché, on fasse connaître cette possibilité. Parce que je suis sidéré de voir que, au fur et à mesure que je prospecte, les gens découvrent que c'est possible. Donc, c'est que le marché mérite encore plus de visibilité pour que les investisseurs soient au courant que juste le fait que ce soit possible. Parce que la plupart sont surpris. Du coup, tant mieux pour nous. Ils sont agréablement surpris dans le sens où, ben, ils pensent pas que ça existe Et du coup, bah, forcément, ils demandent un devis et en général, ça se passe bien. Mais ça serait bien que cette visibilité augmente de manière à ce que les investisseurs puissent l'ajouter à leur boîte à outils, ce qu'ils l'utilisent ou pas, mais qu'ils puissent l'ajouter à leur boîte à outils de manière à pouvoir l'utiliser ou en parler au bon moment, quoi. Donc,
Ah,
on est vraiment dans cette phase-là, d'un point de vue macro, on va dire, on est vraiment dans cette phase-là où le marché est en train de se développer et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, on fait partie des constructeurs, on va dire, de ce marché. Et c'est passionnant, vraiment.
ouais, je veux bien le croire. C'est ce qui serait parfait pour moi en tant qu'investisseur, ce serait qu'en plus des meubles, vous gériez les trois
Ah.
trucs. La PNO, bon, ça, c'est vite fait, l'assurance
Ouais.
PNO. L'électricité, c'est aussi plus ou moins vite fait, et Internet. Et ça, ce serait
Le
tu
combo
vois,
parfait pour
le
toi.
combo. Oh, bah, en fait, voilà, le truc, boum, tu...
Hein?
C'est des trucs, ça a l'air tout bête, mais dès que tu es à plus de 1 heure du bien, ça prend des proportions de malade, quoi. Je veux dire,
C'est
si le
vrai.
net, le technicien, il est là, et puis en fait, il a oublié le câble, ou je sais pas, il n'arrive pas à
Ouais,
tirer la
carrément.
fibre et tout. Donc,
Carrément.
ce serait plus après, j'ai pas breveté, je pourrais breveter les idées. Plus pour la LCD, les boîtes à clés, les serrures connectées, les trucs comme ça. Tu vois, si tu commences à vraiment faire un
Bien
package,
sûr.
en gros, de tout, je pense que puis tu arriverais assez vite à développer une expertise sur un truc où il y a pas beaucoup de monde, quoi.
Exactement, c'est ça.
Et
Alors,
ouais,
après, sur une
pour.
partie qui paraît simple, mais qui n'est pas tant que ça, l'électricité, un truc tout con, si on, je sais pas moi, on s'électrocute en installant une ampoule, tout bête, hein, on n'est pas protégé.
Vous?
Ouais, parce
Ok.
qu'il faut des garanties spéciales pour pouvoir toucher à l'électricité.
Ah ouais, y compris
Nous, on n'est
installer une
pas.
ampoule.
C'est ça. Après, j'utilise l'exemple le plus bête parce que c'est
Ah.
ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien en tant que particulier.
Ah.
Mais nous, en tant que professionnels, on n'est pas couverts.
Ok.
À moins qu'on ait les garanties que les électriciens ont, mais voilà, qui coûtent
Ouais.
très cher et qui seraient juste pas rentables pour le locataire, puisque pour
Ok.
le propriétaire, pardon, parce que
Ouais.
automatiquement les charges on les répercute et
Bien sûr.
ce serait juste pas intéressant, quoi.
Ok. Et est-ce que vous avez déjà, ça me vient comme ça, est-ce que vous avez, j'avais deux questions. Une qui est très
Ouais.
importante, je pense, c'est comment choisir un bon meuble? Parce que c'est vrai que vous, je pense que vous avez un retour notamment sur la solidité. Parce que c'est vrai, c'est
Ouais.
bien beau d'économiser 1 000 balles d'impôts en faisant du meublé, mais si tous les 2 ans, tu as 500 euros de meubles à changer, en fait, tu t'y retrouves moyen, quoi. Donc, on choisit un bon meuble? Je veux dire, est-ce qu'on prend, enfin, bah forcément, il y a plusieurs prix, tu vois. Je sais
Bien
pas, le
sûr.
matelas, chez Ikea, je suis là à me mettre sur tous les matelas, mais en fait, tu sais plus, au bout d'un moment, tu te rends plus compte de la différence,
C'est
tu vois.
ça.
Donc, comment vous les choisissez? Et après, je suppose que vous essayez d'avoir des retours d'expérience et tout ça,
Bien
quoi, par
sûr.
rapport à ça.
Bien sûr. Ouais.
Donc,
Bah,
pour un lit, par exemple, comment choisir un bon lit?
un lit, ah,
Ouais.
ça, c'est un choix qui est tellement personnel
Mais
que
ouais, mais bon, nous, on n'a pas le choix.
on peut jamais viser complètement juste. C'est pour ça qu'on essaie quand même de plaire à un maximum de personnes et on va mettre, tu sais, ils ont un indice en fonction de la fermeté du lit.
Ouais.
Donc on a les lits qui sont très denses, très durs et sur lesquels, bon, il faut, voilà, c'est un confort particulier et bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont s'y plaire. Et à contrario, les lits très très mous, très peu denses, avec des ressorts qui te font rebondir sur le lit quand tu te couches, qui sont un peu particuliers aussi, qui plaisent pas beaucoup de personnes, on va essayer d'éviter ces extrêmes et de se placer quelque part entre les deux dans une fourchette où un maximum de personnes pourraient trouver son compte, quoi.
Ouais.
Donc c'est pour ça on est obligé aussi de raisonner comme ça et de plaire à un maximum de personnes. On ne pourra pas plaire à tout le
Ah, bien
monde. On
sûr.
ne pourra pas viser juste à chaque fois. Ça nous obligerait à prendre contact avec le locataire avant
Ouais, c'est
de
ça, quand tu fais de
morfler.
la LCD, moi ça m'arrive, j'ai des avis. T'en as pas tout le temps, mais t'en as un qui te dit, ouais, le lit il est trop dur, tu vois.
Ouais,
Et
c'est
du
ça.
coup, ouais, c'est pas évident.
Donc, à défaut, on essaie d'être, tu sais, on va se mettre de
Mainstream,
1
quoi.
à 10, à 1, c'est trop mou, à 10, c'est trop dur. On va essayer de se mettre à 4, quoi, plus proche du mou quand même. Parce qu'en général, les gens apprécient quand ils sautent sur le lit et qu'ils s'enfoncent un peu dedans.
Ouais.
Mais pas non plus trop long, parce que bon, après, il y a des personnes qui ont des problèmes de dos qu'il faut aussi prendre en compte, et il y en a quand même pas mal. Et même quelqu'un qui n'a pas de problème particulier, il apprécie d'avoir un matelas qui est confortable. Bon, que je définis comme confortable. Après, à tous, c'était une notion
Bien
différente par
sûr,
rapport à ça. Donc, c'est là où c'est une question particulière. Après, pour le reste des meubles, là, on va prendre en compte. En fait, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte pour le choix d'un meuble, mine de rien. Pour un même meuble d'une même qualité, on peut avoir trois prix différents, qui vont du simple au triple. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte déjà le fournisseur de meubles. Parce que des fois, tu as des fournisseurs qui jouent beaucoup sur l'image de marque et qui vont pas forcément apporter plus de qualité qu'un autre fournisseur. Peut-être que ça sera plus optimisé parce que ce fournisseur est spécialiste dans un style. Tu sais que tu vas trouver ton compte chez ce fournisseur parce que tu cherches un style en particulier. Après, tu vas avoir des fournisseurs qui vont faire du volume. Je pense à IKEA notamment, et qui fait tellement de volume qu'ils sont capables de tirer les prix vers le bas. Et pourtant, ça ne veut pas dire que la qualité est réduite. Pour certaines références, oui, ils ont des entrées de gamme dont la qualité est d'entrée de gamme, qui va avec le prix, mais ils ont des références qui sont très bien, qui tiennent la route et qui peuvent permettre de s'intégrer dans un intérieur qui restera classique, hein, ça restera du moderne, voilà. Mais en tout cas, c'est des meubles qui durent longtemps pour les qualités intermédiaires, pour les fourchettes de prix intermédiaires, ça dure dans le temps. Ils sont plutôt jolis, encore une fois, c'est subjectif, hein, mais ils sont plutôt jolis. Ils s'intègrent bien à l'intérieur moderne, en tout cas. Et au niveau prix, on reste raisonnable. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes de prendre en compte, surtout quand on vise la rentabilité.
Ouais, forcément,
Ça
pour
va
tout le
être
monde,
un facteur important, bah, bien
pour
sûr.
le client, pour vous,
C'est
pour le
ça.
locataire. Ouais.
C'est ça.
Et là, j'ai une question qui me vient. Alors, peut-être que tu, dans mes villes, en tout cas, où j'investis, je sais pas
Ouais.
si chez toi c'est différent, mais moi, j'ai l'impression que le fait de faire du meublé, alors, fiscalement, c'est avantageux, mais que les prix, tu vois, tu as plein de formateurs immo qui disent, ouais, tu vas pouvoir louer plus cher parce que c'est en meublé. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment une plus-value par rapport à ça? Je veux dire, sur le loyer demandé.
Bien sûr. Ouais. Bah écoute, c'est bien, nous on a pu comparer du coup sur les clients qui ont passé en meublé, qui étaient déjà propriétaires en nu et qui sont passés en meublé pour les raisons qu'on connaît. Et ben on a pu observer une augmentation de loyer entre 10 et 15%. Donc après, comme tu dis, ça dépend des villes. Ça
C'est
dépend
ça.
énormément des villes. On va dire qu'on tend plus vers les 15% dans les grandes villes. Donc dans les villes où le prix au mètre carré est élevé, où il y a une forte tension locative. Et plus la ville est petite, plus on va se rapprocher de 8-10% d'augmentation de loyer. On constate quand même une augmentation de loyer dans les petites villes. Typiquement, on est beaucoup sur Saint-Étienne et là, on l'observe pas mal. Donc, on est à 8 à 10%. Donc, c'est vrai que sur un loyer moyen à Saint-Étienne à peut-être 400 euros, bon, on passe de 400 à 440 euros. C'est pas non plus, c'est pas
Ça
non
met
plus
un peu du
300
temps
euros, c'est
à
quand même.
rentabiliser les meubles, mais après il y a la
Exactement.
fiscalité qui est avantageuse, ça c'est clair.
C'est ça. Bon, en fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte par rapport à ça. Il y a différents leviers à utiliser, en fait. Quand on passe en meublé, bah, c'est vrai que on a eu ce discours du comptable qui dit, ouais, mais fiscalement, c'est pas intéressant, ne passez pas en meublé. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a les avantages fiscaux, mais il n'y a pas que ça. Donc, un investisseur qui paye pas d'impôts peut avoir un bénéfice à passer en meublé, malgré tout. Donc, on a le levier fiscal, qui est le plus connu. On a le levier au niveau de l'augmentation du loyer. Donc voilà, on l'a dit, hein, plus la ville est grande, plus on va pouvoir augmenter son loyer, entre 10 et 15%. Et on va avoir aussi le levier valorisation du patrimoine. Un appartement qui est meublé se vend plus rapidement et plus cher qu'un appartement qui est nu. Surtout si c'est un appartement que vous exploitez en investissement locatif, c'est sûrement un investisseur qui va le racheter par la suite. Donc
Ah,
s'il
c'est
est
pas
déjà
bête ça.
meublé, s'il est déjà meublé, l'investisseur gagne vachement de temps. Et il va pouvoir payer un peu plus cher. Quand on voit qu'un appartement, allez, en passant par nous, alors que voilà, vous payez moins cher si vous faisiez vous-même, des investisseurs qui peuvent le faire, qu'ils le fassent, qu'ils le fassent, hein, s'ils peuvent. C'est pas parce que nous on le propose qu'on va pousser absolument passer par nous. Mais un investisseur qui passe par nous va payer, allez, 3 000 euros pour un pack standard sur un T1, passe son T1 dans une grande ville, il va pouvoir le revendre. 5 000, 6 000 euros plus cher.
Ah, bien sûr.
Pas de
Et
problème.
ça, c'est vrai que c'est une vraie réflexion que je me suis déjà faite. Moi, longtemps, j'ai acheté et revendu des voitures. Et quand tu les revends, faut toujours que ce soit nickel, tu vois. Parce que tout
ce
qui n'est pas nickel, ça va te coûter 3-4 fois. Si tu as une rayure qui va te coûter 400 euros à réparer, ça va te coûter 1000 euros. Et en fait, je me suis déjà dit que si je dois vendre un appartement qui est vide, parce que moi, j'en ai en société, donc j'en ai… je serais prêt à mettre des meubles, soit les louer, soit les… Parce que c'est sûr que ça n'a pas le même rendu. Et moi, quand je fais des offres sur des biens qui sont vides, je me dis, si c'est vide, ça veut dire que c'est vide de qui ne s'est plus habité depuis un petit moment.
C'est vrai, ça a l'air bon aussi.
T'es sûr que mon offre, c'est pas sûr, mais voilà, déjà, il n'y a pas de coup de cœur, franchement, quand c'est vide. Sauf s'il y a un truc de fou, tu n'auras pas de coup de cœur. T'en as qui coupent les legs, tu sais. T'as des gens, ils vendent appart, ils coupent les legs. Oh les gars, vous vendez tu payes 10 000 balles à un agent IMO, tu ne peux pas payer 15 euros d'électricité.
Tu visites en plein hiver à 18h,
Et à mon avis, un appart, j'ai jamais entendu les chiffres, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça, mais c'est sûr qu'un appart qui est bien meublé, pas trop chargé, mais meublé, ça se vend plus cher, je suis quasiment
c'est
sûr.
C'est ça. Nous, c'est vrai que du coup, on n'a pas trouvé de stats là-dessus.
Je pense que c'est trop dur à trouver.
Du coup, c'est cool parce que j'ai quand même l'expérience d'agent IMO, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait sur le marché au niveau des ventes. Déjà, t'as peut-être, 1% des ventes qui sont meublées, quelque chose comme ça. Et quand tu vois le nombre de personnes, le nombre de visites où les gens te disent « j'arrive pas à me projeter », si c'est déjà meublé, la question se pose même pas. Et tu as même des investisseurs qui arrivent pas à se projeter.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on a tendance à penser d'un côté particulier et côté « je veux acheter ma résidence principale ». Un investisseur qui fait un investissement locatif, c'est pareil. Donc, si directement, il se projette, il sait à quoi ça va ressembler, il sait comment va être son locataire, il est prêt à payer un peu plus cher puisqu'il est rassuré.
Ouais.
Tu sais, c'est beaucoup d'achats immobiliers, même pour l'investissement locatif, même si les chiffres pèsent aussi beaucoup dans la balance, c'est une décision qui est rationnelle.
Bien sûr, complètement. Quand t'es formé, quand t'as acheté des dizaines de biens. Moi, une fois, j'ai visité, il n'y a pas très longtemps, un appart tout sombre au rez-de-chaussée. Et après, je suis allé dans un appart au 6e, surélevé et tout. J'ai presque tombé amoureux du bien, tu vois. Et ça, c'est pareil. T'as vachement du mal. Quand t'es investisseur, tu peux poser les chiffres. Tu visites 5 apparts qui sont trop chers. Crois-moi que le 6e, tu vas le payer plus cher que… Même s'il est moins cher, tu vois, l'être humain, il n'arrive pas bien à faire de l'absolu, quoi. C'est vraiment…
C'est évident. Il suffit qu'il soit bien décoré, qu'il soit joli, que l'appartement lui-même, je ne sais pas, c'est des jolis murs en pierre, une petite derrière ou quoi. Des petits éléments comme ça qui en soi, ne changent pas grand-chose, mais qui font la différence au moment de la visite, quoi. Mais c'est intéressant, ça. C'est toute une réflexion qui est… Même nous, qu'on essaie de mener autant que possible, quoi, pour… essayer de créer ce fameux effet coup de cœur, tu sais.
Ouais. Qu'on voit bien dans les émissions d'IMO. Qui existe.
Bien sûr. Ouais, on a tendance à le sous-estimer. En fait, c'est marrant parce qu'on en est tous conscients de cet effet coup de cœur. Mais au moment où on vend dans notre appartement, notre maison, on ne prend pas en compte.
Ouais, c'est ça.
C'est dommage.
Ah, c'est vrai, tu penses quand tu achètes, mais tu ne penses pas quand tu vends. Alors que tu vois, quand j'achetais par exemple des voitures, je trouvais ça scandaleux, les gens qui n'avaient pas lavé leur voiture. Tu vois, souvent des femmes, les femmes, on vous embrasse, les voitures dégueu. Et je me disais, mais c'est incroyable, mais en fait, dans les apparts, tu as des trucs, c'est 10 fois pire. J'ai déjà vu des araignées monstrueuses, des trucs crades, des trucs qui restent. Ok, cool. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'ai des questions de fin, je ne sais pas si tu veux encore dire quelque chose. Dernière petite question. Comment vous coordonnez? Donc, vous êtes trois dans trois villes différentes. Est-ce que vous avez mis en place des procédures écrites? Est-ce que vous êtes répartis les tâches? Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Par exemple, la compta, c'est un truc qui va toucher tout le monde ou le montage des meubles, je suppose, selon l'endroit. Comment vous répartissez le boulot parce que je pense qu'on a vite fait d'avoir double emploi ou personne qui s'occupe d'un truc, quoi.
Bien sûr. Non, là-dessus, c'est vrai que comme on sait qu'on est. De base, ça me semble indispensable de bien se répartir les rôles, et là d'autant plus du fait qu'on n'est pas à côté. Au niveau de toute la partie administrative, on va dire gestion, compta, tout ça, c'est Quentin qui s'en occupe. Moi, après avoir relancé le projet, c'est vrai que c'est une partie qui, que je préférais éviter de gérer, on va dire. Quentin s'est proposé, ça tombe très bien. Donc, Quentin s'occupe de cette partie. Après, au niveau de la gestion des chantiers, comment on s'était réparti? En fait, c'est tout simple, on va au plus proche.
Ok.
Le chantier à Lyon, c'est Quentin qui est le plus proche, et ben il y va. Et on raisonne comme ça, en fait. Hein, donc,
d'accord.
Et après, au niveau de la distance, c'est vrai que c'est une gestion particulière à avoir. Parce que on est obligé d'avoir des process qui sont uniformes et qui soient très très clairs. Donc on a des workflows. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les workflows, en fait, c'est on va prendre le process, par exemple du suivi du client. Donc à partir du premier contact jusqu'à la signature du devis, et on va découper chaque étape, chaque mail qu'on va envoyer, chaque relance s'il répond pas. Donc on va prendre chaque scénario et on va voir comment on les traite, de façon à tous les traiter de la même manière et avoir quelque chose d'uniforme. De toute façon, en plus, là, on est en train de préparer le recrutement pour la fin d'année. Au moins, même quand on va recruter, ce qui risque d'être en télétravail automatiquement. Donc, c'est indispensable d'avoir des process comme ça qui soient clairement définis, surtout dans notre configuration d'organisation, pour être sûr d'avoir quelque chose de cohérent et que le client qui fait appel à Mobimo par Quentin, par Benjamin, par moi ou par n'importe qui, il soit traité exactement de la même manière. Sinon, ça serait pas juste, quoi.
Ok, super. Et vous communiquez, vous avez quoi comme outil pour communiquer entre vous?
Vous avez des
drives, des clouds, vous avez Substack, des Telegram, comment vous communiquez entre vous?
On a à peu près tout ce qui est possible. on va dire que le socle, au niveau de la communication, du partage de fichiers, de documents, ça va être Teams. On a un drive sur Teams qui est pas mal. Ça permet d'organiser des réunions en visio. On a la messagerie qui est très bien. Donc, on utilise ça. On a l'incontournable Outlook pour communiquer entre nous et par rapport aux clients, prospects, partenaires, toutes les personnes avec qui on traite. Et on a aussi un canal sur Discord et par message pour tout ce qui est un peu plus pas urgent, informel, mais qui nécessite une réponse un peu plus rapide. Et c'est ça, c'est carrément plus informel, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on est collègues que qu'on passe pas des soirées ensemble, qu'on en profite pas.
Ok. Bah cool. Bah pour finir, j'ai deux questions. La première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Essaye. Pour développer un peu, parce que ça risque d'être un peu flou pour certains. Plein de fois, même encore ce matin, on a eu la discussion. Est-ce que je fais ça? Ou comment on peut faire pour toucher des clients? Comment on peut s'y prendre? Essaye. En fait, même si t'es pas sûr des résultats, même si tu penses que c'est une mauvaise solution, même si, essaye. Il y a qu'une façon de savoir. Est-ce que communiquer sur Facebook, c'est une bonne idée? Essaye. Et au final, ça va marcher 1 fois sur 10. Et cette unique fois sur 10 où ça va marcher, on va la réutiliser.
Après, tu vas creuser.
Pour trouver une autre fois sur 10 et une autre fois sur 10 qui va marcher, etc. Ouais. etc. C'est comme ça qu'on va faire des choses qui fonctionnent.
C'est ce qu'il faut faire. Tu vois, moi, je le vois, c'est pas un truc entrepreneurial, mais avec les podcasts, impossible de dire les épisodes qui vont fonctionner ou pas. Tu vois.
Bien sûr.
Parfois, il y en a, j'étais trop content de les faire. Et puis, ça marche pas. Et puis, de temps en temps, tu vas tomber sur un truc qui va péter. Et tu essayes de le refaire. J'avoue, j'essaye de le refaire. Franchement, souvent, ça fonctionne pas. Tu vois. Donc,
mais le pire, c'est que souvent, ça se voit des détails.
Ouais,
c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça se joue à rien du tout.
Et puis ça peut se jouer, pour les podcasts, typiquement, si quelqu'un va écouter un épisode avec moi, c'est souvent sur base des anciens épisodes. Donc en fait, tu sais même pas si c'est ton épisode qui est bon, le sujet qui est bon, c'est souvent un mélange un peu de tout. Ou alors juste que tu as fait un super bon épisode la semaine dernière
et du coup, ils sont curieux de savoir la suite.
Ouais, voilà.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est trop important. C'est vraiment d'essayer. Mmh. Essayer, même si ça marche pas. De toute façon, dans la plupart des cas, ça marche pas. Et c'est normal. Non, mais c'est vrai.
Ah, c'est ça. Quand t'es entrepreneur, c'est la résilience, quoi.
Carrément. Mais si t'as pas accepté ça, tu peux pas y arriver. C'est juste impossible. Il faut être prêt parce que dans la plupart des cas, ça fonctionne pas. Et garder les fois où ça fonctionne pour les réutiliser et les utiliser à mort, quoi.
Ouais.
Donc, ouais.
Ok, bah, super bon conseil. Super bon conseil. Et après, on s'habitue, c'est vrai. L'autre fois, j'avais fait un week-end, en fait, je cherchais à vendre un bien un peu pourri. En même temps, je faisais des travaux et tout. Je suis tombé sur 50 personnes dans le week-end qui m'ont gueulé dessus, quoi. Enfin, pas gueulé dessus, mais qui m'ont dit, ouais, ça va pas, ouais, ou tu vois, quand je négociais des trucs.
Okay.
Mais après, je savais que c'était le truc à faire. Au final, j'ai trouvé un mec, par exemple, qui m'a fait mes travaux pour pas cher et bien. Ben voilà, sauf que j'en ai vu 5 ou 6. Et puis après, j'ai trouvé, finalement, je l'ai loué, j'hésitais entre les deux. Ben, pareil, j'avais des locataires à qui ça allait pas. Mais en fait, j'avais passé une journée avec que des frustrations, tu vois. Et au bout d'un moment,
forcément,
tu t'y fais.
Tu te remets en question, hein.
Mais voilà. Par exemple, dans l'immobilier, tu as un bien. Donc, ça veut dire que quand tu le vends, tu vas pas le vendre à 100 personnes, tu vas le vendre à une personne.
Exactement.
Donc, et typiquement, normalement, ce sera pas la force de la première. Donc, faut s'habituer à ce qu'on se fasse un peu taper dessus et maltraiter. Et c'est pas grave.
Obligé. Obligé. Voilà. On le voit aussi pour les banques, hein.
Ouais.
Les
pour les
emprunts,
banques.
Le nombre de personnes qui me disent, moi, j'ai fait 20 banques pour avoir mon prêt.
Ouais.
Et tous, ils m'ont dit que c'était impossible, sauf un. Bah, on s'en fout. C'est
ouais.
Bon. Si on est un, c'est OK. Ça passe.
Voilà. Et la dernière question, est-ce que tu as un invité à me recommander sur le podcast? Ça peut être n'importe qui, pas un de tes associés, parce qu'on a parlé
bien
du
sûr,
pote.
Bien sûr,
ouais.
Si on passe un par un, et pourquoi pas. Bon, je suis sûr qu'on aura plein de choses différentes à raconter.
Ah, bah forcément.
Mais bon, c'est pas le but.
Ouais.
Bah écoute, peu importe, crypto,
ouais.
Immo…
Crypto, immo, entrepreneuriat, même du sport. Là. Je prends les sportifs en ce moment…
Ouais.
J'ai pris un joueur de poker. J'ai.
Ouais. Eh ben, écoute, quelqu'un que je peux te recommander très, très chaudement. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est mon ancien patron.
OK.
Et il a quitté son projet. Il a vendu sa boîte, ses parts en tout cas, pour monter un projet crypto.
OK.
Qui est en relation avec le gaming. C'était un petit peu l'idée initiale.
OK.
Et c'est assez impressionnant. Il est en train de proposer un nouveau business model, entre autres pour les écuries de e-sport.
Ok.
Et c'est assez impressionnant pour la faire simple. En fait, les écuries de e-sport, jusque-là, ils n'ont pas réussi à trouver un business model qui soit stable. Les écuries ouvrent puis ferment par manque de fonds parce qu'elles n'arrivent pas à financer leurs joueurs. Et là, il est en train de développer un nouveau business model basé sur la crypto qui permet justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus viable sur le long terme au niveau des joueurs. Et de manière plus large, j'y bosse aussi avec des créateurs de contenu, des blogueurs, des influenceurs, des artistes, vraiment avec tout type de professions qui sont un peu dans cette situation. Et c'est un projet qui est juste énorme. C'est un gars qui est juste ultra solide, vraiment, un entrepreneur pur et dur. Donc, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ce regard-là de la crypto. C'est vrai qu'on a souvent le regard de la crypto Bitcoin.
Sur spéculation et tout, ouais.
Bah, c'est ouais. Ça, et le côté spéculatif, mais il n'y a pas que ça. Il y a des vrais projets qui se développent et ça peut être intéressant, je pense, en tout cas.
Ok, c'est ouais, bah super.
C'est un projet que je suis de près et qui me passionne parce que la crypto, je m'intéresse de près, pas que pour la partie spéculation. Et là, pour le coup, c'est un vrai projet, quoi.
Ok, bah cool.
Et d'ailleurs,
bah,
ce ne sera pas la peine de parler spéculation avec.
Ça va. Bah, tu m'enverras ses coordonnées, du coup. Et puis,
allez, avec plaisir. Avec
ça roule. Plaisir. Bah, écoute, Johan, ça m'a fait super plaisir.
Et moi aussi.
Bah, je vous souhaite tout le meilleur pour Mobimo. Si on veut te contacter, tu as des réseaux. C'est via LinkedIn hein, qu'on s'est contacté.
Ouais. On est présent sur LinkedIn ou alors sur le site internet directement, mobimo.fr.
Mobimo, MOBIMMO.fr.
Exactement, c'est ça. LinkedIn ou le site internet.
Ok, bah écoute, merci beaucoup et je te souhaite une très bonne soirée.
Merci.
Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, j'ai adoré faire cet épisode et là, je l'ai réécouté. Et franchement, c'était très très intéressant, je pense. Donc, si vous voulez meubler un appartement, c'est une solution qui existe et vous pouvez même le faire financer par la banque dans certains cas. Voilà, comme je vous l'ai dit, si un jour j'ai un partenariat avec une société, je vous l'indiquerai. Mais là, c'était vraiment moi qui avais pris contact avec Mobimo parce que je trouvais que c'était vraiment un thème qui était très intéressant pour les personnes qui font du meublé. Je vous laisse. En plus, j'ai pas mon micro, hein, comme vous pouvez vous en douter. Le son n'est pas exactement pareil. Je vous laisse, comme d'habitude, penser, partager, vous abonner, liker, commenter, etc. Ça fait super chaud au cœur. Et on se retrouve mercredi prochain avec un nouvel épisode. Allez, bye bye, bon week-end.